Okay, hello everybody. So it falls to me to welcome you this morning to the University of London Institute in Paris, although I have very little responsibility for what's going to happen today, and I'm really excited to be here and to participate. My name is Anna-Louise Milne, and I work at the University of London Institute in Paris, have done for a number of years. And the reason why I'm kicking things off this morning is because I'm speaking too fast. Okay, so that enables me to say that, yes, I'm starting in English because this whole event, I think really significantly, is going to be translated simultaneously. And we have our translators sitting here. And we're really, I think it's fantastic that that's happening. And so I'm slowing down now. Okay, so those of you who would like to hear this very small introduction that I'm going to give and that Shella will give. If you want to hear it in French, you need to pick up a headset from the back of the room. The rest of the day is going to be taking place primarily in French. So it's those who would like to have it translated from English to English, who need to make sure that they get a headset before the main proceedings kick off. So the very first part in English, and I'm going to stay in English, although those of you who know me know that I do tend to jump around between languages, but I'm going to try and speak slowly, clearly, and in English. You see, I'm getting into the right sort of flow for this process in order to enable the translation process. So many thanks to the translators. Many thanks as well to the team for making sure that translation is going to be possible throughout the event. And now to go back to where I was, the reason why I'm kicking off this day today is because the project, the Bannister-Fletcher Global Fellowship in Urban Studies, to give it its full title, was a project that I was at the origins of, the initiative for. And so I just want to say just a few words about what that project is trying to do, and then a few thanks, and then I'll hand over to Shella, who will be giving you far more detail and a bigger picture of what's going to be happening through this week. So the Bannister-Fletcher was in fact a father and son operation of a massive monumental encyclopedia of monuments around the world, an encyclopedia of the history of architecture. And there is a fund of money that draws from the rights of that work. And our idea was to use that fund in order to start thinking about infrastructure, urban environments, city dynamics from a non-monumental perspective, from, as the terms said right in the early versions of the project, and Shella and Olivier reproduced these terms in the program that you have for this week. What we were interested in doing was trying to open up the Bannister-Fletcher legacy by putting experientially embedded attention to urban dynamics right at the heart of this opportunity to invite scholars, practitioners, militants, artists to apply to us with a project which was both a project of work for themselves, but which would take place through a collective elaboration. So it would take place through propositions to the community at the Institute, but also more broadly to the international community, to participate in their ongoing research, to participate in this experiential way that I think is going to be really the hallmark of this week and has been the hallmark of the previous iterations of the fellowship. So experientially embedded attention to urban dynamics, particularly of welfare, of collective life, and of inventiveness in and of solidarity. And I think that question of inventiveness and creativity within solidarity is going to really come to the fore. Now, the structural situation for this fellowship is the fact that we are in Paris, and we are part of the University of London. So the framing of London and Paris is really important. And in the context of work on these massive global cities, the tendency is always to look to the major drivers of institutional and urban change, the large factors, the macro factors in urban change. So again, what we're trying to do here is stay with that thinking about the global city, but from within the kind of a bottom-up approach, if you like, community-led innovation, new vernaculars. And what I want to say, just kind of as a way again of framing this week, is that we're now in the fourth iteration of this program. And I think what we can see is that those initial terms of kind of community-led innovation, of questions of informal vernaculars and practices, is now starting to take on a much richer set of conceptual tools, a much more elaborated and thickened language that we are building collectively and have been building over the past 4 years. And it's a real source of pleasure for me to be able to say that we're weaving across, I think, that notion, and we have these wonderful kind of graphic contributions from Olivier as well, which create that sense of holding things together. And over the 4 years, I think we are really working through that kind of weaving process with some of the key figures who featured in the first program, which was around questions of quantification of urban space. And one of the contributors to that was Abdou Malik Simon, who then himself became a fellow just last year. In that first year, which was the first fellowship, was held by Ming Kung Lee, who is an urban historian based at Bryn Mawr College in the US. And so her project turned around questions of quantification, but in really interesting ways explored the legacy of the plantation. And again, the questions of the plantation and the plot and the patch are going to come back this year with Olivier's program. The second scholar after Min Kung Lee was John Bingham Hall, and John was very interested in questions of ecologies and wilding within the city. And in that context, Carol Wright participated in London, and Carol will be coming to Paris. She's not here yet, I don't think, no. She'll be coming to Paris and participating this week. And then last year with Abdou Malik, we were talking about questions of urban extension for a full week in Paris, again in areas which will be re-explored in different ways with different perspectives this week with Olivier. And in that context, Kaz Rebel were present, and Kaz Rebel with Michaela Danje will be here again this week. So I think what we're doing is really building this sense of a kind of shared exploration, shared investigation, and shared construction of knowledge and experience. So on that, I just want to conclude by thanking Olivier enormously for this week. It's so exciting. The program is beautiful and engaging and energizing. And what a way to start a Monday in the last week of April with the sun and all this kind of vivacity around us. Also to thank Shella, who's been absolutely integral to bringing this program forward and to us this week. And I'm going to let Shella thank all the individuals who've been more involved in the nuts and bolts and all the stretching and elasticity that also has made this possible. But I will also just thank John Bingham Hall and Ben Rogers, who've supported this particular iteration of the program. And it's really important to put that on record, and thank as well the Bannister Fletcher Trust Fund for allowing us all to be here. So over to you, Shella, and I hope to have a chance to talk with everybody who's in the room, and those, particularly those of you who might haven't yet met. So over to you, Shella.
Thank you, Anna Louise. So for those of you who don't know me, I'm Shella Sheikh. I'm a senior lecturer in international politics here. And also this year, whilst Anna Louise has been on research leave, I've been looking after the research here at ULIP, hence working with Olivier on this fellowship. Thank you, Anna Louise. I also want to extend thanks to you for having brought this fellowship project into fruition several years ago and allowed it to sort of have this cumulative effect that you've really nicely outlined, with this sort of increasing layers of connections being built across both academics, also other practitioners, activists, but also students and colleagues. So now, in terms of this year's fellowship, I'm delighted to introduce this year's fellow, Olivier Mabouf, who's a author, storyteller, curator, film producer, many other things. I'm not going to read the extensive biography. It's online. And also, by the way, the biographies for all the participants, they're not in the program, but they're all online. So do please consult the webpage to learn more about the speakers. Olivier will be giving an introductory presentation very shortly. So I'm just going to talk a little bit more about this program for this year, just to give you a little bit of context, especially as it relates to ULIP, the University of London Institute in Paris, and also some practical information. So the current program this week is part two, or episode two, of this project, Distant Island Spectral Cities. And the fellowship has unfolded over several months, with the first event taking place on the 4th of March in London, at Senate House, the kind of headquarters of the University of London. And it was entitled Weaving a Spiral of Archives in London. There's a section of small notes, small writings by Olivier that's on the website. If anyone wishes to consult, you'll get a little bit more context, background. He wrote some texts for that first event in London, and there will be more to come, so please do keep looking at the website. And as Ana Louise already mentioned, we have some nice connections and sort of replications of participants. So we have some of the speakers from London, Julian Enriquez, Adam Philogene-Heron, also Carol Wright, who participated in March, who'll be coming to join us shortly during the week. And so in order to solidify the connections between the cities and also the languages, as well as diasporic entanglements between the two cities. And following this week-long program, we're also planning another event on the 30th of May, and we'll soon be circulating information about that. So if you haven't signed up to the Eventbrite, do so, because then we'll notify you. You'll get information about the subsequent event. So this will give us a chance to digest this week and catch our breath before a final gathering, in which we might think more about the continued life of this vital project of building a speculative Caribbean archive. So here at ULIP, just to give you a little context, because I realize there are many people in the room who are new to this institution, this building, we run two undergraduate programs, one in international politics, one in French studies, as well as an MA in urban history and culture. And Olivier has very generously given guest classes across each of the programs in the past few months in an attempt to embed the themes and the methodologies of this project into our teaching and also to pique the interest of students. And it's been a pleasure to see how this year's program extends many themes and gestures that we here, staff teaching here, staff here at ULIP, attempt to prioritize. So, for instance, the broader project of quote-unquote decolonizing the curriculum, which entails many things within it, such as just thinking about France, quote-unquote, and French studies, I have guillemets, scare quotes all the way through, as well as the international, of international politics, from the perspective of the so-called Outre-mer and the global south, and with this thinking about the importance of global anti-colonial struggles for issues of international politics, both over there and here, again, quote marks. Reading historical and contemporary events through the famous boomerang effect, or the choc en retour of Aimé Césaire. And here we can think, for instance, about the current events and the current genocide taking place in Gaza and the actions of Europe and the US. Or interrogating processes of racialization and the silencing of minority voices and narratives. Insisting on the importance of culture and cultural studies for interpreting and engaging in international politics. Questioning power dynamics of institutions and possible practices of refusal. And undoing hierarchies of knowledge and expression so as to pay necessary attention to the sonic, the sensual, the carnivalesque, and so forth. The list could go on. It will become evident, I hope, throughout the week how many of these themes and methodologies are absolutely crucial for institutions of academia. So Ana Louise has already expressed a few thanks. I want to detail this a bit more. And this is coming from both myself and Olivier. So here, first of all, at ULIP, of course, first and foremost, thanks to Ana Louise Milne, whose long-term oversight of the Bannister Fletcher Fellowship and whose intellectual input has been much appreciated by Olivier and myself. To Lisa Damon, back here, for her invaluable translation work on the online publications, as well as logistical assistance this week. Rebecca Puget for patiently populating the websites and the Eventbrite pages. Alexander Lake for very importantly making sure everyone gets paid. Vladimir Marinkovic and Kim Lemin for their constant technical and logistical support. And importantly, we'd also like to thank Victor Donati here, who's expertly recording everything for the Sonic Archive in Becoming. And last but not least, a huge thanks to our interpreters, Rita Abu Khalil and Ridley Campbell, and later in the week, Elisa Cincinnati. So having had the pleasure to host Rita in an event last year about the politics of translation, for which Elisa also interpreted, I'm all too aware of the labor, the attentiveness, and the care that's needed for this crucial work that involves much more than simply carrying across content from one language to another. And we'd remind everyone to please be mindful of this when speaking. I hope I'm not speaking too fast. And furthermore, on behalf of myself, colleagues, students here at ULIP, I'd like to thank Olivier for his unceasing energy, imagination, and generosity. I've had the privilege of witnessing the labor, creativity, and sensitivity entailed in building a program such as this, involving months of research and hours of discussions with the participants, and see this as an inspiration for those of us in academia who wish to build lasting research collaborations and collectivities that assemble around urgent political issues, and importantly, do so through friendship and reciprocity. And last but not least, I'd like to thank all the participants for agreeing, in many cases, hugely enthusiastically, to join us in this project of constructing what Olivia has named a community of interpretation. So, practically speaking, we have coffee and drinks at the back. You'll be served lunch at midday. The interpretation, we're going to switch now to French. So those of you who need to, please pick up a headset. Please, please remember to give the headsets back. They're very valuable. We're going to get in a lot of trouble and pay a lot if any get lost. So we'll keep reminding you throughout the day of that. And importantly, I've been told to tell you about fire safety. If something happens, you just need to, what do you need to do? Calmly evacuate the building to the meeting point located across the street on the Esplanade, which is actually moved because of the works taking place on the Esplanade. So now, if there's a fire, we meet by the metro entrance, okay? Easy to remember. You have toilets in the basement, there's a water fountain in the hall, coffee here. I think that's it. If you have any questions, just grab myself, Lisa, Olivier. Over to you, Olivier.
Thank you very much. I'm going to switch to French, but I think during the week we'll moving through languages, but je vais parler en français à présent. Merci beaucoup, Sheila, Anna-Louise. C'est aussi un plaisir, un honneur de parler après vous. Parce que je pense qu'une université, c'est aussi des personnes, et quand je pense, et ça va être un sujet cette semaine, quand on va parler d'institutions, on ne doit jamais oublier qu'on parle aussi de personnes. Parce que les personnes sont toujours un peu moins désespérantes que les institutions. Et donc, parfois, on est un peu sévère avec des grandes machines ou des plus petites, et on oublie qu'à l'intérieur de ces machines, de ces espaces, travaillent des personnes dévouées, pas souvent les plus visibles, mais sans lesquelles tout ça ne fonctionnerait pas. Et moi, j'en suis témoin pour ULIP, qui m'a accordé ce fellowship pendant l'année académique et que j'essaie d'honorer du mieux que je peux en apportant le plus d'idées possibles. C'est des idées qui sont de plusieurs natures et on va traverser cette semaine à la fois des questions qui sont liées à des contenus. Et le point de départ de ma recherche, c'est la question de la présence caraïbéenne à Paris et à Londres. J'expliquerai pourquoi, en fait, je me suis posé cette question-là et comment je me la suis posée. Mais c'est aussi, en fait, un fellowship dont j'ai voulu qu'il soit aussi une réflexion sur des méthodes de recherche et de travail. Parce que j'ai l'impression, et mon parcours y est pour quelque chose, qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus aujourd'hui faire un travail de recherche sans se poser la question de ces conditions, qui soient des conditions matérielles, mais aussi des conditions de production de savoir commun, à un moment où la question du savoir est subtilisée, appropriée, privatisée, de manière extrêmement dangereuse. Et donc, voilà, en tout cas, ce qui m'a guidé jusqu'à présent, c'est de penser dans cette recherche-là, à la fois en fait un ensemble de contenus, un travail sur les imaginations partagées, travail sur des pistes, sur des errances parfois, mais aussi un travail sur la manière de maintenir et de produire des communs. Alors voilà, la question de départ, et je pense que dans la salle, pas mal de gens sont amenés de différentes manières à faire des recherches. La question de départ, c'est qu'on est toujours un peu obligé, pour trouver les conditions et les moyens de ces recherches, d'affirmer qu'on cherche quelque chose. Même si, très régulièrement, en fait, des gens importants dans la société française, parfois des présidents ou des ministres, pour la blague, se disent finalement que, à force de chercher, il faudrait trouver quelque chose. Que ça devient presque une rhétorique, comme ça, en fait, d'efficacité. Et moi, j'ai décidé de faire cette recherche pour essayer de comprendre pourquoi je cherchais. Mais cette question de pourquoi je cherchais, j'ai l'impression qu'elle est plus productive qu'on croit, en fait. Que l'idée qu'une recherche doive avoir un résultat qui correspond à ce à quoi on pense au départ est une fausse idée. On cherche pourquoi on cherche. Et moi, j'ai entraîné, il y a des gens qui seront là aujourd'hui pour parler, tout un ensemble de gens à chercher avec moi pourquoi on devait chercher et comment on devait chercher. Et donc, cette question de la présence caribéenne à Paris et à Londres est évidemment une espèce de prétexte, un espèce de point de départ qui n'est pas sans conséquences, mais qui n'est pas la seule raison ou la seule chose que je souhaite chercher. Ce n'est pas que la question des personnes qui viennent des Caraïbes à Paris et à Londres, mais c'est la question de tout ce que cela entraîne de se demander ce que font les Caraïbéens à Paris et à Londres, comment ils le font et avec qui ils le font. Et à partir de cette question-là, s'ouvrent beaucoup de questions qui vont être des questions esthétiques, des questions écologiques, des questions urbaines, des questions politiques, des questions économiques, des questions d'alliance, des questions d'amitié, des questions d'inimitié, des questions de xénophobie. Et puis voilà. Donc toutes ces questions-là, en fait, s'ouvrent à partir d'un point de départ, et c'est celui-ci que j'ai choisi. C'est pas complètement hasard parce que je suis issu des diasporas caribéennes. Guadeloupéenne, pour être plus précise, et que, quelque part, en fait, lorsque je me suis intéressé à essayer d'élaborer une recherche dans le cadre qu'a décrit Anna-Louise, qui est dans le cadre des recherches urbaines, je trouvais ça assez intéressant de questionner au moment présent où on se trouve, et j'essaierai de vous en dire plus sur ce que je pense du moment présent, de questionner, en fait, la question caraïbéenne depuis la perspective urbaine. Ça me semblait moins courant, et ça nous semblait aussi pouvoir peut-être ouvrir d'autres champs de représentation et de débat que finalement un ensemble d'archétypes et d'images, puisqu'on parle vraiment de ça, qui ont fini par remplacer les vies caraïbiennes, en fait. Et ces images et leur commerce me semblaient pouvoir être défaites si on partait d'un point de vue un peu inattendu, qui est donc très loin des îles elles-mêmes, qui est donc ces villes spectrales que sont Paris et Londres. Évidemment, quand on parle de Paris et Londres, on est au cœur de l'Empire, et lorsqu'on est originaire de la Caraïbe, c'est vraiment l'autre monde. Finalement, quelque part, là où Paris et Londres ont imaginé un nouveau monde à l'endroit où la Caraïbe est née, les Caraïbéens imaginent un autre monde au-delà de l'océan, et quelque part ce regard, cette réciprocité du regard, pour moi elle est encore à élaborer et à travailler. Savoir quel monde, quel est le regard que portent des gens qui sont issus de la Caraïbe sur ces villes, sur ce qui s'y passe et sur ce qu'ils y font. Et évidemment, ce qui était assez intéressant et excitant, parce qu'il y a une forme de contradiction, tout un ensemble de sujets qu'il m'intéressait de développer dans cette recherche sur la présence urbaine caraïbéenne, ne relevait pas forcément de choses facilement identifiables, fixes, solides, nommées et classifiées, mais tout un ensemble de choses que je pensais particulières que faisaient ces présences caraïbéennes avec d'autres, et qui nécessitait de faire un effort dans les catégories même, et qui déplaçait les catégories même qu'on utilisait pour décrire ce qu'était la vie urbaine. Alors voilà, ça c'est la question du pourquoi aller chercher à cet endroit-là. Et après, il y avait la question en fait d'une méthode. Et en même temps que je me suis intéressé à cette recherche à cet endroit de la Caraïbe urbaine, je me suis intéressé à la manière de chercher. Et c'est vrai que, en général, lorsqu'on rentre dans un espace de recherche, et ici c'est une université, on a tendance à se plier à un ensemble de choses pour convenir à la case qu'on imagine être l'université, ce qu'à titre personnel, je n'ai pas vraiment fait. Et que je pense que tout le bien qu'on peut apporter à l'université, c'est ne pas se plier à l'imagination qu'on a de ce que devrait, de ce que serait l'université, mais plutôt de ce qu'elle pourrait être aussi. Et donc, c'est vrai que pour moi, l'une des méthodes de cette recherche est une méthode de type cartographique. C'est-à-dire que cartographique, il y a graphique, et donc j'ai aussi beaucoup dessiné, comme je le fais souvent quand je travaille. Mais cette cartographie-là, c'est aussi l'idée de mode de relation entre les sujets, entre les lieux, les époques, les choses et les gens, qui ne sont pas que des modes de relation organisés par discipline, mais qui sont aussi interdisciplinaires. Et cette forme interdisciplinaire, finalement, elle est plus facile à atteindre quand on utilise des outils graphiques. Cartographier un ensemble de relations nous crée des possibilités qu'on ne verrait pas ou qui n'apparaîtraient pas si on reste sur la question des études du son, des études urbaines, de l'histoire, de catégories qui sont quelque part relativement verticales et que là, à travers effectivement un rapport plus intuitif, qui donc utilise aussi des gestes, les gestes de l'art, j'ai tenté de poursuivre une recherche qui va aussi solliciter beaucoup de gens qu'on va entendre aujourd'hui et tout au long de la semaine. Donc cette cartographie, elle est évidemment dynamique, et ce qui m'intéresse dans la cartographie on a commencé à Londres, on va la poursuivre cette semaine et on continuera encore avec, c'est que c'est évidemment une cartographie qui est incomplète et qui n'est pas non plus une cartographie qu'il va associer des choses qui vont toujours bien ensemble. Moi, j'aime bien en plus l'idée que ça ne va pas bien ensemble. On a tendance à vouloir raconter uniquement des choses qui s'agencent. Et moi, je voulais aussi raconter des accidents, des alliances qui sont inattendues, des conflits, étant entendu que, plus qu'il y a un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui à l'endroit de la Caraïbe, qui est la question de la relation, il n'y a aucune raison qu'une relation soit une chose positive. Il y a tout un ensemble de relations, y compris des relations de domination, des relations de violence, des relations toxiques. Toutes celles-ci, en fait, il faut les accueillir pour examiner, en fait, ce qui fait relation. Et évidemment, en tant qu'antillais, on sait très bien que les relations peuvent être aussi très largement subies. Et c'est vrai que cette recherche travaille sur un imaginaire, et je m'en suis rendu compte en avançant, où j'avais envie de défaire, en fait, une espèce d'imaginaire pacifié et sympathique qu'on adressait à la région Caraïbe. Chose qui continue de m'étonner, parce qu'il faut vraiment y jamais y avoir été, pour continuer à penser que tout ceci se passe dans un espèce de brassage d'une société monde. Et je dis souvent aux gens, il y a une chose qui est très simple pour comprendre la dynamique dans laquelle on se trouve, c'est que, pour mémoire, aux Antilles, le métissage, sa première source, c'est quand même le viol. C'est-à-dire que quelque part, c'est une société qui démarre par ça, en fait. Elle ne démarre pas par la rencontre des peuples. Elle doit digérer une première rencontre, une première relation qui est dans un régime de violence. Et elle le transforme en quelque chose d'autre. Mais elle a ça aussi comme source. Et c'est vrai que cette idée-là que la Caraïbe serait la solution à un monde globalisé. J'ai été invité dans beaucoup d'endroits dans le monde où c'était l'argument de départ. Moi, je ne viens pas avec un argument comme ça à vous parler cette semaine. Je dis, on verra bien ce que c'est la Caraïbe. On verra bien, mais d'abord, il faut commencer à travailler sur tout ce que c'est. Et on verra bien ce que c'est. Mais partir du principe que c'est une solution, c'est renforcer en fait le mouvement de pacification extrêmement agressif qui est en train d'être produit sur cet endroit pour qu'il ne nous raconte pas toute la complexité de l'histoire européenne, parce qu'il s'agit de ça en fait. Puisqu'il s'agit bien d'un monde en retour de la modernité occidentale. Et donc cette cartographie, elle contient aussi des choses qui sont joyeuses. Je voulais dire aussi qu'en termes de figures tutélaires qui ont été pour moi extrêmement importantes pour réfléchir, notamment dans une perspective culturelle, à toutes ces questions sociales, politiques, économiques, esthétiques, écologiques, il est évident que les travaux de Stuart Hall restent extrêmement centraux pour moi et n'ont pas beaucoup d'équivalents, en fait, dans l'espace francophone. Et c'est aussi l'un des sujets de cette recherche-là, de chercher non pas des équivalences symétriques, mais des choses qui ont à voir avec ça, des choses qui, quelque part, sont des traces de cette pensée dans d'autres espaces que l'endroit où elle a été élaborée. Je voulais reprendre ce dont parlait aussi Sheila quand elle parlait d'amitié. C'est aussi un projet, moi, que j'ai eu envie de développer sous le chapitre de l'amitié, qui est quelque chose qui peut paraître de nouveau très trivial et qui, à mes yeux, ne l'est pas, en fait. Parce qu'une amitié intellectuelle, c'est-à-dire une envie, en fait, de faire quelque chose ensemble, c'est quelque chose qui est aussi un outil de résistance contre la puissance de division qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui affecte tout particulièrement en fait les sociétés caribéennes au moment où dans l'espace européen et notamment francophone et notamment français, un espèce d'agenda dit de visibilité voit le jour. Cette question de la visibilité des cultures caribéennes, elle semble relever de nouveau d'une forme de positivité qu'on n'interroge pas. Finalement, qui va refuser la visibilité ? On vous propose d'être visible. Mais qu'est-ce que la visibilité n'est pas ? Est une question, à mon avis, plus intéressante à poser. La visibilité n'est pas la souveraineté. La visibilité n'est pas l'autonomie. La visibilité n'entraîne pas automatiquement, en fait, la fraternité et la sororité. Donc la visibilité n'est pas un chapitre qui permet de couvrir toutes les relations dont on a besoin pour faire société. Elle peut être, au contraire, un outil pour défaire société et pour individualiser les trajectoires. C'est dans ce moment-là qu'on parle, dans un moment où les tentations, et plus que les tentations, les dynamiques nationalistes sont extrêmement fortes, et que, au moment de s'interroger sur les présences caribéennes en Europe, on ne peut pas s'interroger sans réfléchir à ce qu'est l'Europe aujourd'hui, quoi. Que ce soit en Angleterre ou en France, je ne sais pas qui gagne la compétition, mais en tout cas, il y a des forces qui sont très fortement engagées pour gagner le concours des idées les plus laides et des réalités les plus tragiques. Et du coup, cette question caribéenne, pour moi, je l'interroge aussi, en fait, au regard d'un endroit et d'un moment en particulier. Et donc là, c'est un dernier point qui me semble important, c'est qu'en même temps que le chapitre de visibilité est présenté, ce chapitre de visibilité, il accompagne en fait ce que j'appelle une métaphorisation en fait de la vie, une métaphorisation de la politique, et donc une métaphorisation de la Caraïbe. Et cette métaphorisation-là, en fait, pour moi, elle a le risque de rater l'importance matérialiste de la pensée. On pense dans un moment précis, pour des raisons précises, avec des corps en particulier qui ont des histoires particulières. Et là, c'est le cœur de mon travail de penser que la première archive que je recherche, c'est évidemment l'archive enregistrée par les corps dans la vie vécue et dans ceux qui ont vécu avant nous et qui nous traversent. Et cette logique-là d'essayer d'ancrer en fait une réflexion caribéenne en dehors de cette métaphorisation, c'est aussi une manière de s'échapper de la commodification de la vie, de la fabrication, de la confusion entre vie et image de la vie. Et ça, c'est un sujet très important parce que moi qui suis quelqu'un qui vient du monde de l'art et de la culture, ça peut paraître contre-intuitif de démarrer par ça, mais c'est vraiment l'idée qu'un travail culturel, un travail intellectuel peut être aussi matérialiste et peut nous permettre de repenser notre vie de manière assez concrète dans ses organisations les plus intimes, y compris ce qu'est une recherche. Et c'est vrai que en travaillant avec l'équipe du LIP, et c'est une conversation qui est encore en cours, je me suis interrogé sur la manière de ne pas créer des pratiques agressives de privatisation de segments de recherche qui emmènent chaque jeune chercheur et chercheuse, et parfois moins jeune, à s'hyper spécialiser sur un sujet pour en faire une propriété. Et cette chose-là tragique est la conséquence même de l'économie dans laquelle on travaille, où on doit avoir des singularités extrêmement reconnaissables, qu'on soit travailleur culturel ou travailleur intellectuel et académique. C'est un des sujets, en fait, que je souhaitais interroger avec cette recherche-là, et c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à peu près 25 personnes qui, cette semaine, on a compté finalement, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais ça relate aussi d'un rapport de pensée relationnelle qui est pour moi important. J'ai passé mon parcours entier à penser avec les autres, et je voulais, en fait, profiter de cette occasion pour continuer à le faire, pour renforcer nos amitiés et nos liens, pour aller au-devant aussi de potentiels malentendus, parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, les forces de séparation le font pour nous. Donc il vaut mieux aller au-devant de gens qu'on a envie de rencontrer, avec qui on a envie de parler, plutôt que laisser les liens se distendre. Je voulais finir par le fait que l'une des questions qui avait présumé à ma recherche était en fait la... Je m'en suis rendu compte en le faisant. C'était pas tant en fait la présence caribéenne à Paris et à Londres, que la perspective de refonder un lieu. J'ai dirigé un lieu à Paris qui s'appelait l'Espace Chiasma et qui participe, comme la colonie ou comme d'autres, à une histoire décoloniale de Paris. On a perdu ces lieux et je pense que c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup affecté à titre personnel, mais au-delà d'une affectation personnelle, ça m'a aussi affecté intellectuellement. C'est-à-dire que j'ai dû réfléchir à comment continuer à travailler et continuer à penser sans avoir un support matériel qui avait été pendant 20 ans une espèce d'évidence, je pense, à partir d'un endroit, dans la perspective de cet endroit, pour le faire grandir, pour l'étendre. Donc cette pensée située, quand on la perd, c'est quelque chose de très difficile à retrouver. Et je pense que j'ai passé ces 5 dernières années, et cette recherche participe, à réfléchir à comment recomposer une pensée sans avoir en fait de lieu, et on est plusieurs dans la salle à s'être interrogé sur la nécessité d'avoir un lieu, et je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de l'engager même sans l'avoir, c'est-à-dire qu'il fallait commencer le lieu. Il fallait recommencer le lieu par notre manière de travailler, par les gestes qu'on faisait, retravailler dans la perspective d'un lieu. Plutôt que de le chercher pour recommencer, il fallait le recommencer déjà nous-mêmes psychiquement, et cette recherche m'a permis de recomposer ce que j'ai fait pendant 20 ans à Chiasma, c'est-à-dire rassembler des gens pour échanger des idées. Et c'est le début de ce lieu que j'ai envie de partager avec vous. Je voulais finir par dire que la cartographie de cette semaine, même si elle pose des possibilités de ce lieu, en parlant d'indépendance, d'internationalisme, de mouvements et d'espaces d'émancipation, de graffitis, d'images fugitives, de lieux et de monuments fluides et sonores, de musique et de poésie, de pratiques de répétition, d'autonomie, de transmission, de jardin aussi. Cette semaine, on parlera pas de plein d'autres choses dont on doit parler pour faire ce lieu et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres espaces. Autrement, on n'ira pas jusqu'au bout de ces questions de métabolisme et de nourriture qui sont des éléments essentiels. On n'ira pas jusqu'au bout de ce que le dance floor est comme espace de pensée pour les Caraïbéens et pour d'autres. On n'ira pas explorer dans le détail l'importance du zouk, mais on le fera bientôt. on n'ira pas non plus complètement chercher du côté des questions de santé mentale, même si elles traverseront en fait beaucoup de nos réflexions, pour montrer aussi que l'état du monde est aussi un état de notre psychisme et que l'archive est aussi une archive mentale et qu'il faut pas simplement vouloir soigner les gens, il faut pouvoir aussi écouter ce qui nous hante. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas d'être tous là. Remercier Anna-Louise pour ce programme qui est vraiment important et qui fait un très beau lien entre Paris et Londres. Et remercier évidemment Sheila Cheikh pour plus que son aide, pour vraiment un travail vraiment dévoué à rendre possible ce projet qui n'est pas simple. Et puis aussi, voilà, ce travail-là qui est, comme je le disais, à l'université invisible et qu'on doit honorer, auquel on doit donner sa vraie valeur, comme le travail de traduction que Lisa Damon a fait aussi pour moi. Tout ce travail-là, en fait, qui, quelque part, est moins mis dans la lumière lorsqu'on parle des universitaires et qui, pourtant, est pour moi le cœur de ce qu'on doit aimer à l'université et ce qu'on doit défendre dans le moment présent. Je vous dis merci et on va accueillir Françoise pour la première intervention, Françoise Vergès. Merci à vous.